Chapitre 32. Horreur. Mon oncle avait-il décidé de m'enfermer dorénavant la nuit? Bien sûr, je pouvais franchir cette porte, mais comment ferais-je pour tirer le verrou derrière moi? Devais-je trouver un endroit où me cacher, jusqu'à ce qu'il déverrouille la porte, à l'aube, pensant me libérer? Ou valait-il mieux que je monte me coucher, au risque de devoir affronter sa colère le lendemain matin? Quoi? Tu es encore allé rôder dans le parc? Cette seule pensée me ramena à la maison. À la raison. Laissons-le croire qu'il m'enfermait toute la nuit. Je descendis sans bruit les escaliers, traversai la salle à manger où quelques heures auparavant il avait pris un malin plaisir à me questionner et me glissai dans la petite pièce voisine inondée par le clair de lune. Installé dans le plus grand fauteuil, je sortis de sous mon gilet le petit objet de cuir que j'avais trouvé. J'allais enfin découvrir des secrets. Je soufflai dessus pour le débarrasser de sa poussière, enlevai du bout des doigts les toiles d'araignée et m'essuyai soigneusement les mains sur mon gilet avant d'ouvrir le portefeuille. Il s'agissait en fait d'un carnet. Malgré le peu de lumière, je vis que quelqu'un avait décoré la première page à la main avec des arabesques, et sur celle d'après, je lus le titre rédigé à la plume d'une écriture familière, mais dans sa forme enfantine, « Journal intime de Liliana ». C'était donc à cela que pensait mon oncle, lorsqu'il disait que ma mère passait son temps à griffonner ses petits secrets. Je me levai pour placer le carnet exactement sous les rayons de lune. Puis je m'assis sur le parquet crasseux et feuilletai ces pages où ma mère racontait ses peines d'enfant. L'écureuil qui avait une patte cassée, les réprimandes de sa gouvernante, lorsqu'elle ne cousait pas avec assez d'application. Elle y consignait aussi ses rêves et même le plan qu'elle avait imaginé pour amener Thomas à comprendre que le plus beau cadeau qu'il pouvait faire à son prochain anniversaire serait un enclos plus grand pour son lapin. À la page suivante, elle s'inquiétait d'un tout autre sujet. Pourquoi Jack est-il si méchant? J'ai l'impression qu'il vit sur une balançoire à bascule. Je l'observe quelquefois en train d'hésiter. Il est sur le point d'opter pour la gentillesse et tout à coup il choisit la malveillance, juste parce que c'est dans son intérêt ou peut-être parce que cela l'amuse davantage. Mais mère dit que les habitudes qui sont d'abord aussi fines que des toiles d'araignée deviennent vite des sangles qui vous enserrent. Et à l'église, le prêtre nous a dit et répété l'autre jour qu'il fallait veiller à éviter le chemin du mal, car il peut nous mener vers l'enfer. Je crois qu'en prononçant ces mots, il regardait Jack avec insistance. Alors j'espère de tout mon cœur que Jack va cesser d'être méchant. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous l'avons surpris sur les marches, en train d'embêter notre pauvre petit Jolion. Et Edmond a dû le gronder parce qu'il avait attendu que le bambin pleure pour lui rendre son ballon. Je tournai la page. Mais elle recommençait à raconter ses petits malheurs, qu'elle avait trébuché, et s'était écorché les genoux en escaladant la berge de la rivière. Je reposai le journal. Je me souvenais du serment du prêtre des Marlots le jour où j'étais allée à l'église avec Sophie. Le diable ne peut arriver à ses fins sans votre aide. Il ne triomphe que si vous lui ouvrez la porte. Disait-il vrai? Était-ce parce qu'il avait ouvert la porte à je ne sais quel démon que le jeune Jack Severn était devenu méchant? Je rangeai soigneusement le carnet tout au fond de ma poche. Mais le seul fait de penser qu'un individu pût mettre autant de méchanceté dans ses yeux me fit passer une nuit épouvantable. Je me tournai et me retournai dans le grand fauteuil poussiéreux. Tour à tour, secoué par d'affreux cauchemars et réveillé par le moindre craquement au murmure de la vieille maison. Malgré tout, j'avais bien fait de ne pas retourner dans ma chambre, car si le capitaine avait eu vent de mes expéditions nocturnes, j'aurais eu droit le lendemain à ces humeurs capricieuses qui le faisaient passer du rire le plus jovial à la colère la plus noire. Or, le matin, au petit déjeuner, il n'était plus le même. « Daniel !» me lança-t-il aimablement. « Regarde un peu ce temps, ce soleil radieux, cet air vivifiant. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à devenir un campagnard. Par quoi allons-nous commencer? La chasse ou la pêche ?» Je n'avais aucune envie d'apprendre à tuer une pauvre bête, mais il était de si joyeuse humeur qu'il m'eût fallu davantage de courage pour le contrarier. Le simple fait d'imaginer un joli petit oiseau frappé en plein vol dans le soleil levant et tombant à terre, les plumes pleines de sang, me donna tellement la nausée que lorsqu'il me pressa de choisir « Allons, mon garçon, choisis ton sport !» J'optai pour la pêche. « Direction la rivière, alors. Martha va te trouver quelque chose de chaud à te mettre sur le dos pendant que je vais chercher les cannes à pêche. Rendez-vous au pont !» Il partit de son côté, moi du mien. Martha rangeait les couverts dans un tiroir. « Bonjour, Martha. Je viens vous demander si vous auriez quelque chose de plus chaud que ce gilet. Je vais passer la matinée au bord de la rivière. » Elle montra du doigt la porte à laquelle pendaient de vieilles vestes. « Tu n'as qu'à prendre une veste de Thomas et en échange, descends-lui de quoi le réchauffer Il est en train de nettoyer le passage du diable. Je frissonnais en me rappelant cet endroit. Il fait froid là-bas. Oui, c'est un endroit glacial et sinistre. Elle me tendit un panier où elle avait mis un bocal de soupe et un gros morceau de pain. Je traversai les grandes pelouses pour descendre vers le passage du diable. À peine avais-je franchi l'arche que je sentis le froid me tomber sur les épaules malgré la veste en laine de Thomas. Je tournais et tournais pour suivre le chemin, m'enfonçant de plus en plus dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'enfin, le chemin débouche dans la clairière. Cela sentait l'herbe fraîchement coupée. Thomas était là au milieu de la clairière circulaire, près d'une des pierres. Il sourit en me voyant dans sa veste de jardinier bientôt grande pour moi. « Eh bien, te voilà parti pour une matinée sportive ?» Je pris une mine chagrine et posant le panier par terre. J'ai bien peur que mon oncle ait décidé de faire de moi un homme comme il faut. Il rit. « Une chance pour moi. Comme ça, tu m'as apporté les petites gâteries de Martha. » Il posa son râteau debout contre la haie pour sortir du panier le bocal de soupe. Voyant le râteau prêt à basculer, j'avançai pour le rattraper par le manche et en me retournant, je remarquai un motif gravé dans la pierre la plus proche de moi. Je m'en approchai. Sous la mousse, il me sembla distinguer les lettres à moitié effacées. Olio. Je pensai tout de suite au nom que j'avais lu dans le journal intime de ma mère. Il y a écrit « Jolion, c'est ça ?» Thomas acquiesça. « C'est une tombe ?» Je montrai d'un geste les autres pierres. « Ce sont toutes des tombes de la même famille ?» Me retournant pour regarder chacune d'elles plus attentivement, je parvins à lire « Une mère affectueuse, le meilleur des pères, à notre cher Samuel, en souvenir d'Edmond. » Tous morts ! Je savais qu'il se passait des choses affreuses dans la vie, mais c'était tout de même une épouvantable série de malheurs pour une seule famille. Était-ce l'une des raisons qui avait poussé ma mère à fuir ? Voulait-elle échapper à la malédiction qui semblait frapper ce lieu ? Thomas confirma là encore d'un hochement de tête. « Oui, tous morts. »« Mais comment ?» Il haussa les épaules. « Oh, quelle importance ! La mort, c'est toujours la même histoire. Jolion est mort très jeune dans son lit. Samuel a été tué dans les bois, et Edmond, le frère chéri de Liliana, a disparu en mer. »« Mais c'est épouvantable ! 3 frères sur 4 !»« 4 ?» L'espace d'un instant, Thomas parut perplexe, puis son visage s'éclaira. « Ah oui, si l'on compte son frère par alliance, ça fait bien 4. » Une nouvelle surprise. Le capitaine Sévère n'était donc pas un frère de sang de ma mère, et je dois avouer qu'en parcourant la spirale végétale pour ressortir du passage du diable, je me sentais soulagée d'un grand poids. S'il n'était pas vraiment son frère, on pouvait moins blâmer ma mère de ne pas m'avoir parlé de lui et de ne pas lui avoir parlé de moi. Il n'appartenait donc pas à ma famille. Ce n'était pas vraiment mon oncle. En un clin d'œil, mon obligation de rester s'était envolée. Mon cœur se souleva de joie à cette seule idée, et mon moral remonta. Je crois même que je chantonnais en prenant le raccourci à travers les bosquets, pour rejoindre la rivière où le capitaine m'attendait, tirant par à coup sur la canne à pêche. « Ah, te voilà enfin, eh bien. Commençons tout de suite la leçon. Prends cette canne, Daniel. Serre-la bien dans tes doigts, comme ceci. Voilà, comme ça. » Il était très exigeant. Il se passa un temps infini avant que mon lancer encore maladroit fût à ses yeux tout juste honorable pour un novice. Ensuite, nous restâmes debout côte à côte, chacun avec sa ligne dans l'eau, craignant qu'en le laissant ruminer en silence, il ne change subitement d'humeur et ne se remette à me bombarder de questions comme la veille. Je lui dis « S'il vous plaît, racontez-moi encore votre vie en mer. Vous couriez des aventures ou bien vous faisiez du commerce ? Difficile de faire l'un sans l'autre dans les ports où nous jetions l'ancre. » Et il repartit dans ses récits à n'en plus finir sur sa vie d'avant. Moi, je m'appliquais à le relancer inlassablement avec mes questions. « Et dans tout cela, mon oncle, vous n'avez jamais songé à vous marier ?» Il éclata de rire. « Me marier, moi, pour me retrouver obligé d'offrir un toit à une femme qui passerait son temps à faire sauter des bébés sur ses genoux ?» Je ne comprenais pas. « Mais vous avez une maison faite pour accueillir une famille ?»« Cette maison ?» Il eut un petit sourire méprisant. « Grand Dieu, mon garçon, j'ai des projets autrement plus ambitieux que celui de moisir dans ce trou perdu. Je serai bientôt parti. » « Parti ?» Il ricana dans sa barbe. « Oui, et cela ne saurait tarder. Il ne me reste qu'une toute petite chose à trouver. » Il me regarda, comme les renards de mes livres d'enfants lorgnaient les poules dans le poulailler, avant d'ajouter calmement « Et une autre à perdre. » La malignité de son regard me mit si mal à l'aise que je faillis lâcher ma canne à pêche. Il se pencha vers moi. « Si tu fais constamment bouger ta ligne, ça ne risque pas de mordre. » Et c'était reparti pour une nouvelle leçon. Mais j'avoue que j'étais incapable de satisfaire mon professeur, car la peur qui s'était insinuée en moi me rendait idiot et gauche. Ma canne à pêche pesait une tonne et mes bras n'avaient plus de force. Le capitaine finit par remarquer que je changeais ma canne de main de plus en plus souvent. « Tu en as assez appris pour aujourd'hui, déclara-t-il. Ce n'est pas si mal pour un début. Moi, je vais rester, je ferai sûrement mieux en 1 heure ou 2 que si tu n'es pas là pour agiter l'eau à côté de moi. » Il me prit la canne des mains. « Pose ça à côté de moi sur la berge et va dire à Martha de m'envoyer Thomas avec une petite collation. » Je regardais les paumes de mes mains toutes rouges. Ce congé était un vrai soulagement. J'y vais tout de suite et je fus bien content de m'éloigner de lui pour prendre le chemin.